VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la politique au Gabon. La mission d'observation de l'Union européenne a rendu public son rapport final sur le scrutin présidentiel du mois d'août dans le pays. Les observateurs européens ont remis en cause la crédibilité de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, Abdourahmane Dia.
Le rapport final des observateurs européens a formulé 11 recommandations pour corriger ce qu'ils qualifient d'anomalie survenue lors du scrutin du 27 août dernier. La mission européenne, qui avait déjà été très critique envers tout le processus électoral, suggère une garantie à l'accès non interrompu aux réseaux Internet et aux réseaux sociaux, y compris pendant la période électorale et post-électorale. La mission recommande aussi des changements pour garantir l'indépendance de la justice. Enfin, les observateurs s'interrogent sur le taux de participation très élevé dans la province du Haut-Ogooué, qui est de plus de 99% selon les chiffres officiels, alors que la moyenne nationale est à 54% sans les votes dans le fief du président Bongo. Cependant, la mission n'a pas recommandé de sanctions contre le régime d'Ali Bongo Ondimba, comme le souhaitait l'opposant Jean Ping, mais demande plutôt l'ouverture d'une enquête sur les violences post-électorales qui ont fait des dizaines de morts.
Politique en RDC, l'Union européenne a décidé ce lundi d'infliger des sanctions individuelles à 7 hauts responsables de l'appareil sécuritaire du pays, accusés de violence, et elle menace d'étendre encore cette liste en cas d'obstruction du processus électoral. La décision, qui concerne principalement les violences et en fait une cinquantaine de morts les 19 et 20 septembre dans la capitale Kinshasa, a été prise par les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à l'occasion de leur réunion mensuelle à Bruxelles. Elle intervient au moment où des négociations de la dernière chance sont menées sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, pour trouver un accord sur une transition politique jusqu'à l'élection du successeur du président Joseph Kabila. M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Le 20 décembre marque la fin de son mandat, mais l'élection présidentielle n'aura pas lieu cette année comme initialement prévu, ce que l'opposition dénonce depuis des mois. L'Union européenne, qui souhaite pour sa part la tenue d'élections le plus tôt possible en 2017, a donc mis à exécution les menaces de sanctions formulées deux fois cette année, en mai et à la mi-octobre. Au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent de multiples violations des droits de l'homme. 8 mois après le déclenchement de la crise électorale, le 4 avril, les ONG estiment que les arrestations arbitraires et la torture sont en augmentation dans le pays. Les explications de Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo-Brazzaville.
Depuis le référendum en 2015 et ensuite il y a eu les élections présidentielles le 20 mars 2016 et depuis lors il y a eu pas mal des arrestations arbitraires et il y a eu effectivement des tortures, les enlèvements à 2h du matin et contrairement à la législation nationale de notre pays. On a projeté les images de torture que les citoyens subissent et ce qui fait que la torture est réelle dans notre pays.
Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo-Brazzaville. On passe à l'Afrique de l'Ouest. Politique en Gambie, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se rendra demain dans le pays à la tête d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, comprenant ses homologues du Nigeria, Muhammadu Buhari, de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, et du Ghana, John Dramani Mahama. Objectif, demander au président sortant gambien, Yahya Jammeh, de quitter le pouvoir à la suite de sa défaite face au leader d'opposition, Adama Barrow, à la présidentielle du 1er décembre. Pour sa part, Yahya Jammeh, qui avait reconnu dans un premier temps sa défaite, conteste maintenant les résultats du scrutin et souligne sa détermination de se pourvoir en justice. Idriss Fall.
Le parti au pouvoir a annoncé qu'il va saisir la Cour suprême. Cette saisine doit intervenir au plus tard 10 jours après proclamation des résultats. Ce lundi étant férié en raison de la fête musulmane du Mouloud, ce recours devrait être déposé donc demain mardi. La Cour suprême gambienne n'étant pas au complet, plusieurs juges devront être nommés avant qu'elle ne puisse statuer. Le président Yahya Jammeh demande un nouveau vote en assurant que l'intervention des puissances étrangères ne changera rien. Il a aussi prévenu qu'il n'allait tolérer aucune protestation. D'ailleurs, Banjul, la capitale, est quadrillée par des forces de l'ordre. Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO, a estimé que ce revirement est inacceptable et menace la paix dans toute la sous-région.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ghana, après son élection dès le premier tour à la présidence du pays, l'opposant historique ghanéen Nana Akufo-Addo devra se mettre rapidement à la tâche face aux multiples défis qui ont probablement contribué à la défaite du président sortant John Dramani Mahama. Pamela Elengabous, une étudiante congolaise à Accra, parle des défis auxquels fait face le nouveau président ghanéen.
Il y a trop de défis à relever. La monnaie qui perd sa valeur chaque mois. Il y a la dépréciation du CDI ici. Il y a l'électricité. L'école coûte quand même cher ici. Il a promis des écoles gratuites. Il a promis ça. Il y a des grands défis à relever. L'économie, l'électricité, le problème d'énergie, le coût de la vie. En somme, ce que les gens disent, c'est quelqu'un d'abord qui a les capacités pour relever les défis. Ensuite, il a beaucoup de connexions avec l'extérieur, les marchés. Voilà, ça va apporter beaucoup d'opportunités au pays. Ça va faire entrer le marché, ça va faire entrer l'argent. C'est ça qu'il a en fait.
Pamela Elengabous, une étudiante congolaise jointe à Accra, au Ghana. New York, le prochain secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prête serment aujourd'hui dans une cérémonie très officielle à l'Assemblée générale des Nations Unies. Puis, il présentera aux 193 pays membres ses projets face aux multiples crises dans le monde et pour réformer l'institution vieille maintenant de 71 ans. Salwa Jafari nous en dit plus sur son parcours.
À 67 ans, l'ancien Premier ministre du Portugal, haut commissaire aux réfugiés, sera donc le 9e secrétaire général des Nations Unies. Guterres a une formation d'ingénieur, fervent pratiquant, il entame son parcours politique auprès de mouvements catholiques. C'est la révolution des œillets en 1974 qui met fin à 50 ans de dictature, qui le pousse à s'engager. Il rejoint le Parti socialiste et passe de longues années au Parlement, où il était surnommé « marteau-piqueur parlant ». Sa victoire aux législatives de 1995 le propulse au poste de Premier ministre. Parmi ses décisions les plus marquantes, rejoindre la zone euro. La conjoncture économique difficile au Portugal lui coûte son fauteuil en 2001. En 2005, il devient haut-commissaire aux réfugiés. Il le restera jusqu'en 2015. Fin diplomate, travailleur acharné et méthodique selon ses confrères, son plus grand défi était la pire crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a également réformé son agence en réduisant d'un tiers les effectifs à Genève pour envoyer plus de personnel sur le terrain.
Politique aux États-Unis maintenant, l'équipe du président élu Donald Trump a annoncé ce matin la nomination de John Kelly à la tête du ministère de la Sécurité intérieure. Il devient ainsi le troisième général à intégrer l'administration Trump, où il sera chargé de la protection des frontières, un dossier majeur des promesses électorales du milliardaire républicain. Dans son communiqué, Donald Trump a dit de l'ancien marine âgé de 66 ans qu'il est la bonne personne pour mener l'urgente mission de stopper l'immigration illégale et d'assurer la sécurité des frontières américaines. John Kelly, dont l'un des fils a perdu la vie en Afghanistan, est connu pour avoir été le responsable de la prison militaire de Guantanamo sur l'île de Cuba de 2012 à 2016. Outre John Kelly, Donald Trump a déjà nommé deux autres généraux à la retraite, Michael Flynn et James Mattis, respectivement conseiller à la sécurité nationale et chef du Pentagone. La nomination de généraux donne de la crédibilité à la future administration Trump, mais le choix d'autant d'anciens militaires dans le gouvernement soulève des inquiétudes sur le principe du contrôle du militaire par le pouvoir civil. Turquie, le bilan du double attentat de samedi à Istanbul s'est alourdi à 44 morts, dont 36 policiers selon l'agence officielle turque Anatolie. L'attaque menée près d'un stade de football après un match de championnat de Turquie a été revendiquée par le groupuscule extrémiste kurde TAK, les Faucons pour la liberté du Kurdistan, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. L'attaque a également fait 150 blessés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.